I forgot to introduce myself.
Taylor, you remember me?
Whoever's behind this operation sells direct to the buyer. No middlemen.
I'm a craftsman. Craftsman. Craftsman.
Le salon impromptu.
Bonjour à tous et à toutes, prenez place dans le salon impromptu et laissez-vous porter ou chavirer par la conversation. Aujourd'hui, on risque de bien se narrer avec mes invités autour de cette question. Quelle est la place des récits dans nos vies? Enfin, c'est complètement aléatoire, ce sera peut-être pas la question. En 2008, Nancy Houston écrivait un petit bouquin, L'espèce fabulatrice, où elle soutenait qu'on est une espèce qui pense en termes de récits, de fiction, de narration. Mais une question, c'est comment on s'en sort quand le narratif est partout, et singulièrement le narratif marketing. Le storytelling, disait-on jadis, ça c'était un an plus tôt, je crois, Christian Salmon qui avait écrit « Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits ». Alors on va revenir aux fondamentaux et voir avec nos trois invités comment on raconte des histoires, pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut dire? Comment on s'y prend? Qu'est-ce que c'est que faire une bonne histoire? Est-il possible que la fiction brouille le réel? Comment les histoires nous transforment? Bref, on a 24 heures ensemble, ça tombe bien pour parler de tout ça. Autour de la table, Patrice Rey. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Merci d'être venu jusque-là. Tu es venu de loin puisque tu étais venu de Monastier-sur-Gazeille où tu as créé un musée qui s'appelle le Musée des Croyances Populaires. Tu es artiste plasticien, collecteur d'histoires du Velay. Et c'est pour ça que tu es riche de contes et légendes d'ici. Et c'est absolument passionnant. Donc, merci d'être là. Avec nous également Emmanuel Roy. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Sophie.
Tu es réalisateur de films documentaires, chef monteur et responsable également de l'école documentaire de l'USAS.
Oui.
Et puis avec nous aussi Éric Derien. Bonjour Éric.
Bonjour Sophie.
Éric, tu es libre conteur.
Conteur.
Tu as créé les Contes éclatés à Saint-Paul-le-Jeune.
Ouais.
Entre autres. Vous avez le droit de dire que c'est... ou de rectifier. Ouais, tu vois.
Oh non, je ne peux pas rectifier. C'est des étiquettes, c'est des formes de récits qu'on nous cause dessus. On fait avec et puis on avance pour en raconter d'autres.
C'est ça. Alors, mais on avance. Un récit. Bon, j'ai quand même pas... Osez poser la question, parce que sinon, c'est pas 24 heures qu'il aurait fallu, mais qu'est-ce que c'est qu'une histoire? Parce qu'en plus, on va utiliser histoire, conte, récit, légende, mythe. Alors tout ça, évidemment, il y a des nuances. Hein, mais peut-être la première question, et je vais commencer par toi, Patrice, et après, c'est parti. Hein. Après, je m'endors et je vous laisse parler. Pourquoi on raconte des histoires?
Alors déjà, j'entendais quand tu disais « qu'est-ce qu'une histoire ?» Alors, le mot « histoire », déjà, ça veut dire ce qui est vrai et ça veut dire ce qui est faux. On parle de l'histoire du monde, l'histoire de France, ce qui est censé être vrai, mais on va dire aussi « ça, ce n'est qu'une histoire, c'est une histoire
ouais. ».
Donc, ce mot est à double sens et antithétique, en fait, quoi, voilà. Et une histoire... c'est quelque chose qui va toujours rassembler les gens et qui va montrer qui sont les gens. Jean Cocteau, par exemple, disait « L'histoire, c'est du vrai qui se déforme et la légende du faux qui s'incarne. » Et c'est vrai que ce que racontent les gens, les histoires qu'ils aiment, en dit beaucoup plus d'eux-mêmes que leur histoire. Voilà, c'est encore une fois le même mot. Par exemple, on comprend beaucoup mieux ce qu'était un grec de l'Antiquité par sa mythologie que, par exemple, dire en 28 avant Jésus-Christ, telle personne a été élue stratège à Athènes. Voilà, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de rencontrer un grand historien qui s'appelait Marc Ferraud. Hein, qui est assez connu pour avoir fait une émission sur Arte qui s'appelait Histoire parallèle et qui présentait les actualités chaque semaine d'il y a 40 ans. Hein, en décalage comme ça et en disant c'est vrai, c'est faux, c'est incroyable, enfin, etc. C'était très intéressant. Et bon, je l'ai rencontré il y a un moment, hein, c'était, j'étais dans la vingtaine au siècle dernier, et il me disait qu'il était, qu'il allait dans les anciennes républiques soviétiques où il demandait à regarder des films. Hein, c'était un historien, entre autres, de l'image filmée. Et que dans toutes ces, tous les archives hein, qu'il visitait, on voulait lui montrer des actualités d'il y a longtemps, des films officiels du gouvernement. Il disait non, moi pour voir la réalité, je veux voir des films policiers, des films d'amour, des films, etc., d'aventures romantiques, et je saurai qui étaient les gens dans telle décennie dans votre pays.
Ah ouais, dites-moi quelle histoire vous racontez, je vous dirai qui vous êtes.
Exactement.
Ouais, super. Ouais. Alors, il y a une chose, on y reviendra. Enfin, il y a mille choses. Là, je crois que déjà, Eric et Emmanuel ont tiqué sur pas mal de sujets. Mais tu dis, c'est une histoire qui rassemble. Alors, ça veut dire que toutes les histoires, les narratifs, en fait, qui sont aujourd'hui plus des narratifs qui s'opposent, c'est pas des histoires, alors.
Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le monde traditionnel, en fait, sur les contes, les contes, les légendes qui ont été similaires à travers des siècles. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai fait pas mal de collectages de ferme en ferme, en montagne ou dans des maisons de retraite hein, pour recueillir des récits. Et il m'est arrivé de rencontrer des gens centenaires, il y a 20 ans, 25 ans, ils étaient plus rares qu'aujourd'hui, et dont un, par exemple, qui me racontait le roman de Renard, sans savoir que ça avait été un jour écrit dans un livre, et que c'était quelque chose qui avait été transmis de manière orale, à travers un très grand nombre de générations, hein, vu que ça a été écrit au XIIe siècle. Et cette personne a été très étonnée le jour où je lui ai amené le livre. Il me dit, mais qui c'est qui a fait un livre avec ça? C'est pas possible. Ce sont des histoires de paysans, faut pas faire des livres avec. Vous voyez? Et déjà, l'image qu'ils avaient eux-mêmes de leur propre culture. Et la seule différence qu'il y avait avec le livre, c'est que toutes les actions de Renard, d'Isengrin, etc., étaient situées géographiquement, localement, ici. En disant, c'est dans tel hameau, tel village. Mais les histoires étaient même dans le même ordre que dans le livre. Et ces histoires-là rassemblaient. Voilà, pour répondre à la question, parce que c'était une culture commune, et à une époque où les conteurs faisaient tout pour que l'histoire ne soit jamais déformée, où on avait des contes, par exemple, avec un refrain, que quelqu'un disait le conte, tout le monde reprenait le refrain. C'est comme une chanson, ça ne bouge pas. Ce n'est pas adapté par les nouvelles générations. Ou même des légendes qui étaient racontées avec des moyens mnémotechniques pour qu'elles restent absolument identiques, comme par exemple un récit où la dernière syllabe de chaque phrase est la même que la première syllabe de la phrase suivante. Où toute l'histoire se déroule en restant tout le temps identique, malgré les siècles qui passent. Et en fait, il y avait peu d'informations, peu de renseignements, et ces histoires rassemblées. Si on multiplie l'information, comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les 300 chaînes de télé et tout, on ne sait plus où est l'information, en fait. Qu'on part dans une multitude de détails, et là ça ne rassemble plus.
Pour rassembler, pour se situer, à quoi sert une histoire, j'aimerais entendre... Eric, tu es prêt à bondir, mais j'aimerais t'entendre, Emmanuel, là-dessus.
Non, mais ça m'intéressait, cette histoire de rassembler, justement. Par ailleurs, j'ai fait de l'histoire, moi. Comme étude, avant de faire des films documentaires.
Et de la littérature.
Mais l'histoire, j'étais vraiment un historien, enfin, c'était ça qui m'intéressait. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est de prendre... Moi, j'ai l'impression que dans le documentaire, on prend justement... C'est un regard singulier sur des histoires singulières. Donc on n'est pas à l'endroit du conte ou de la transmission d'une histoire qui se reproduit comme ça, au contraire. Et c'est un des gros enjeux, je trouve, aujourd'hui, en particulier là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire de transmettre aussi ce que c'est que l'écriture documentaire à des jeunes réalisatrices, réalisateurs. C'est à la fois d'affirmer leur point de vue singulier, mais aussi d'aller chercher des histoires singulières. Mais tout l'enjeu, c'est de rassembler autour de ça, et c'est de raconter de manière à ce que chacun y trouve sa place. C'est-à-dire que histoire ne soit pas, n'isole pas les dessins des autres, mais au contraire, et c'est un des gros enjeux au montage, par exemple, de dire, mais comment est-ce que tu fais rentrer le spectateur dans l'histoire de cette personne pour qu'il y trouve sa place, même si ce que vit cette personne, ce qu'elle raconte, peut être à mille lieues, a priori, mais d'y trouver du commun, quoi. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu pouvais dire de la multiplication des récits, d'un espèce de récit dominant aussi, qui est toujours autour de la distinction. C'est-à-dire on se distingue les uns des autres, effectivement, cette dimension de marketing. L'enjeu, c'est de presque une mosaïque, en fait, de récits, mais où on se, qui rassemble, quoi. Donc, pas un récit commun que tout le monde, qui est partagé, pas un refrain que tout le monde reprend, mais finalement, chacun l'interprète à sa manière, mais chacun peut y trouver, en fait, une histoire commune et construire une histoire commune. Et c'est vraiment un des enjeux, pour moi, absolument fondamental. Du documentaire aujourd'hui, dans la manière dont on le défend, nous, à l'USAS, et dans ce qu'on appelle le documentaire de création, qui donc peu à l'opposé, on ne traite pas des sujets. L'objet des films, c'est la relation aux personnes, c'est la rencontre, et c'est effectivement la mise en récit. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un traitement d'un sujet comme peut être un reportage, c'est vraiment comment est-ce qu'on raconte une personne, un lieu, une histoire, quoi. Et vraiment d'aller chercher dans le singulier ce qui rassemble. Quoi. C'était sur cette histoire de rassembler. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on partage. Quoi.
Mmh. Eric ?
Je me régale à entendre tout ça. Vraiment, je me régale. Et ça évoque, ça m'évoque plein de choses. Et je vais reprendre cette dichotomie entre l'histoire. Histoire, on sait, hein, c'est une connaissance. Hein, l'histoire et les histoires. Ça m'évoque un petit proverbe que j'utilisais il y a longtemps avec des gamins. Avant de raconter un certain conte, où je leur disais, très très souvent, on entend des histoires vraies faites pour dire des trucs complètement faux. Et de temps en temps, on raconte des trucs complètement faux qui, eux, disent du vrai. Et je trouve que cette dichotomie, en fait, elle n'en est pas une. C'est-à-dire que l'histoire avec un grand H... je conseille à tout le monde de choper le manuel d'histoire du monde diplomatique où, en de nombreuses pages, on voit comment est enseignée telle période dans tel pays. Et on voit, on a affaire à des réalités qui n'ont plus rien à voir. Par exemple, moi, j'ai grandi avec... On me racontait une histoire. Les Américains nous ont débarrassés des nazis. Alors, je suis pas sûr des chiffres exacts, mais je crois que c'était pendant que les nazis envoyaient peut-être 10 ou 15, divisions sur le front de l'Ouest, Amérique, France libre, Angleterre, Canada, ils en envoyaient 70 sur le front de l'Est. Mais on m'a raconté une histoire qui, en effet, a rassemblé. Cette histoire-là a rassemblé tout un peuple autour du fait de regarder des westerns et boire du coca.
Mmh. Alors c'est 9% sur le front Ouest.
Ça, super, merci, ouais. T'as de vrais chiffres. Ouais. Donc, la fabrique de l'histoire, je sais qu'aujourd'hui, il y a des historiens qui se bagarrent dur comme fer, pour qu'il y ait un peu moins cette fabrique d'un roman national et pour revenir à de l'histoire qui repose sur des faits, qui repose sur des chiffres. Donc, entre histoire et histoire, mais dans tous les cas, ça rassemble. Mmh. C'est-à-dire que même quand tu parlais du storytelling, oui, des trucs qui divisent, je vois l'actualité est géniale pour ça en ce moment, c'est qu'il y a plein de façons de regarder des événements très récents, des façons qui sont en totale confrontation. Je parle, par exemple, de ce qui s'est passé il y a 15 jours. Donc, tant des gens d'un spectre politique qui vont dire que non, mais les méchants, c'est eux. Ceux de d'autres spectres politiques qui disent les méchants, c'est eux. Mais ils sont tous rassemblés autour d'une façon de se raconter des histoires. Le monde se sépare entre des gentils et des méchants. Et ça, c'est déjà une façon de se raconter, quoi. Mmh. Et moi, vraiment, ce truc qui rassemble, je trouve, caché derrière, on va le retrouver. Et ça me fait juste penser à une petite anecdote. Le bonheur que j'ai eu en rencontrant un conteur togolais qui venait de Zaba. Et à un moment, on discute, et il me raconte un truc de son village. Hein. Il me dit comme ça, tu sais ce que c'est qu'un philosophe ? C'est un aveugle qui cherche dans une chambre noire un chat noir qui n'y est pas. Et là où il m'a fait plaisir, c'est que moi, je racontais déjà depuis quelques années un dialogue des pères du désert qui commence, c'est exactement la même phrase, sauf qu'après, il rajoute, c'est perdu désert. Et un théologien, c'est quoi ? C'est la même chose, mais des fois, il trouve deux chats. Mais exactement la même histoire qu'avait traversé le Sahara, dans un sens, qui s'était installé dans son village, comme pour lui, c'était un truc de son village. que moi j'avais trouvé ailleurs et que plus tard, avec ces années, j'ai retrouvé dans des cultures du Maghreb, qu'on retrouve dans des cultures juives d'Europe de l'Est. Alors c'est caché derrière des mots différents, hein, mais...
Mmh. Ça revient à ce que disait Patrice sur le roman de Renard. Sur le plateau, il y en a, enfin voilà, il y a des gens qui racontaient le roman de Renard sans savoir même d'où ça venait, etc. Donc ça me pousse à poser la question. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une histoire comme ça perdure? C'est quoi une bonne histoire, alors, pour qu'elle puisse comme ça se prolonger? À part redire ce que vous avez dit, c'est-à-dire, bah, ça rassemble. Ouais, mais quels sont les ingrédients pour que ça rassemble? Je sais pas.
Alors, moi, je peux parler de mon travail. C'est-à-dire qu'une histoire qui va rassembler, c'est... alors, si vous voulez, c'était toujours des histoires fantastiques qu'on racontait dans La Veillée paysanne. Pas parce que ces gens préféraient le fantastique à d'autres thèmes, mais parce que c'était leur culture, qui était à la fois très religieuse et très superstitieuse. Des gens qui étaient très catholiques avec des superstitions qui venaient d'avant le christianisme, où les deux se mêlaient sans poser aucun problème. Et une bonne histoire, c'était une histoire que tout le monde comprenait et qui correspondait aux gens. Par exemple, en montagne, en Haute-Loire, là où j'ai beaucoup travaillé, eh bien, on va toujours dire que ce sont des histoires locales, ce sont des histoires très locales, alors que dans la réalité, on va aussi les trouver ailleurs. Il suffit que le paysage... un élément, une grotte, une forêt, une montagne, évoque l'histoire pour dire « Regardez, regardez, c'est ici ». Mais il y a des histoires qui vont rassembler parce qu'elles correspondent aussi au paysage. Chez moi, on va trouver beaucoup d'histoires de loups-garous, par exemple. Hein, en Haute-Loire, il y a le loup-garou de Dignac, le loup-garou de Chaturange, le loup-garou de la Chaise-Dieu, le loup-garou de la Trinité, etc., etc. Des tas d'histoires de loups-garous. Peut-être, parce que plus on monte en altitude, moins on peut faire d'agriculture, et plus on fait de l'élevage. Et l'ennemi du berger, de l'éleveur, c'était le loup. Là où j'habite, le dernier grand loup a été tué en 1901. Et donc c'était une peur qui était réelle et qui allait se répercuter dans le monde fantasmé de la veillée paysanne et créer des tas d'histoires de loups-garous, ce qu'on ne va pas trouver dans les régions qui vivent dans les plaines ou qui vivent de la mer, par exemple. Et l'histoire qui va rassembler est une histoire qui, à mon avis, va correspondre aux gens qui l'écoutent. Même si c'était ce dont je parle, des histoires fantastiques, eux, ce qui les intéressait, c'était pas le fantastique. Mmh. Hein, c'était le suspense, la surprise, etc. Mais aussi le fait que l'histoire soit bien racontée, toujours bien racontée. Et il y avait des anciens qui assistaient toujours à s'éveiller à la ferme pendant les soirées d'hiver et qui surveillaient si l'histoire était bien racontée, si elle était bien dite comme avant. Voilà, parce que si c'est une bonne histoire, il faut la conserver. Mmh. Et si c'est une bonne histoire, il faut bien la raconter. Qu'il n'y a pas que l'histoire en elle-même, qu'il y a la façon de faire aussi. Hein, qu'il va y avoir un rythme, qu'il va y avoir... une façon, je pense que le conteur va avoir aussi certains gestes, certains regards, etc., quand il raconte son histoire. En fait, il y a la forme et le fond pour une bonne histoire. Voilà.
Le rythme, la mise en intrigue, la mise en suspense. Mmh. Et puis, tu as parlé aussi de quelques ingrédients, parce que tu parlais de créatures fantastiques. Il y a à chaque fois dans la créature fantastique quelque chose d'un peu menaçant, qu'il faut surmonter.
Oui,
en fait.
Mais
c'est une menace à surmonter.
Voilà, c'est la même menace qu'on va trouver, par exemple, au cinéma, autant dans des films de gangsters. Ça ne sera pas une créature fantastique, ça sera un grand méchant. Ou dans des films romantiques, où la grande menace sera vont-ils finir ensemble à la fin du film, etc. Qu'il faut toujours cet élément qui va faire que les auditeurs vont accrocher au récit.
Vaincre un ennemi, quoi.
Tout
vaincre
à fait.
Un adversaire. Mais alors, donc, c'est une question que je garde pour tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Mais pour toi, Emmanuel, ouais, qu'est-ce qu'une bonne histoire?
Oui, alors je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne histoire, c'est ça qui est assez génial, c'est que... Ça se réinvente à chaque fois. Il y a quelque chose qui est assez passionnant dans le film documentaire, c'est que On tourne avec des intentions, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens, on va à un endroit avec une idée, avec des questions qui sont évidemment bouleversées par les gens qu'on rencontre. Et ensuite, il y a cette matière filmée qui arrive, et là, il faut raconter l'histoire au montage, c'est-à-dire qu'une masse de rushs qui sont évidemment avec un axe, avec des recherches, avec on retrouve toutes ces questions, mais il faut trouver l'histoire là-dedans. Et je ne sais pas, c'est ce qu'on dit toujours, en particulier le montage d'un film documentaire, on repart à zéro à chaque fois. Enfin, moi, j'ai fait ça pendant 25 ans, et à chaque nouveau film, j'avais l'impression de devoir réinventer une loi. Voilà. La loi du film, la loi de l'histoire. Et justement, pour ne pas être dans une redite, dans une répétition, pas comprendre au bout de 5 minutes de film quelle va être la fin et qu'il y aura un grand méchant à la fin, même si on joue toujours sur ce type de recherche. Mais on parlait de... C'est marrant parce que là, tu parlais de monstres et là, c'est plutôt d'identification dans le cas du documentaire. C'est-à-dire que c'est toujours cet espace de projection que le spectateur peut avoir face à des situations, face à des personnes, il peut se retrouver, donc dans un commun, là encore. Et donc tout l'enjeu, c'est de tenir ça, à la fois dans la manière dont on les filme, la manière dont on tient des durées parfois, dont on reste avec eux pour dépasser la question, par exemple, d'un sujet, ou d'un sujet, c'est toujours cette question du sujet par rapport au journalisme, on ne traite pas un sujet, mais on reste avec quelqu'un, et là, dans ce temps qu'on passe avec lui, on arrive à créer de l'identification. Et puis cette question absolument essentielle de la forme. C'est-à-dire que comment on amène les éléments narratifs au fur et à mesure, comment on crée une tension, même en documentaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va découvrir au fur et à mesure qui est cette personne, quelles sont, pourquoi est-ce qu'on est avec elle, quel est le lieu où elle travaille, mais qu'est-ce que c'est que ce travail, et puis de distiller ça, et de le travailler musicalement, rythmiquement, enfin dans un rapport de montage, ça c'est absolument essentiel. Et c'est assez passionnant de voir à quel point on peut embarquer des spectateurs, même très loin, pas forcément cinéphiles, dans des films qui sont... Souvent, on peut nous dire ça dans le documentaire de création, ben là, c'est trop pointu, les gens ne comprendront pas. Mais en fait, si l'identification est là et si le rythme, c'est-à-dire la musique, s'ils sont pris, ça fonctionne. Quoi. C'est-à-dire cette histoire, elle fonctionne, elle marche, ils ont envie d'en parler, ça leur évoque des choses personnelles et il se passe quelque chose qui... Voilà, qui est un peu mystérieux hein, aussi. Moi, c'est surtout pas des recettes, mais c'est de se faire confiance sur cette capacité à s'identifier et à mettre les gens dans un rapport. Mais effectivement, sans doute comme le conte, moi qui voilà, était pas mal baigné par les contes quand j'étais enfant, il y a quelque chose comme ça aussi d'une rythmique et d'une présence. Quoi.
Eric.
Alors, c'est une sacrée question. Qu'est-ce qu'une bonne histoire? Déjà, moi, il y a un truc par rapport à ce que tu disais sur les gens qui racontaient comme c'était raconté, que ça bougeait pas d'une ligne. Et j'ai un malin plaisir, entre autres dans le monde des conteurs et des conteuses, de dire comme ça, « Ah, mais moi, j'ai choisi le métier le moins original du monde. » On raconte des trucs qui, de toute façon, se racontent depuis des siècles et des siècles. Mais là, je raconte une histoire en disant ça. Mm-hmm. À une époque où il y a une espèce de culte de l'originalité, de l'individualité. Tu vois, là déjà, je raconte une histoire. Bon, je crois qu'une bonne histoire, ça va être super benêt, ma réponse, de base. C'est une histoire qui fait du bien. Qui fait du bien aux gens, qui fait du bien au peuple, qui fait du bien à la terre. Une histoire qui fait du bien. Et ça peut prendre plein de couleurs, plein de connotations différentes. On a parlé tout à l'heure du partage. Je travaille beaucoup sur les mythologies, entre autres pour une raison. C'est qu'en fait, on soigne les peurs d'apprendre. Par exemple, des enfants qui sont en complet refus d'apprentissage, qui à 10 ans ne peuvent pas faire basse si tu leur donnes un B et un A, en leur racontant simplement de la mythologie, quelle que soit la mythologie, tu les ramènes à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en un an. Alors ça, j'ai pratiqué avec des enfants de la protection judiciaire de la jeunesse qui étaient dans des états pas possibles, avec des ados en insertion, pareil, dans des publics durs, et aussi avec tous les petits blessés qu'on est tous, hein, ce qui soigne les grands blessés, ça soigne les petits blessés. Et déjà, c'est énorme comment ça fait du bien, comment ça soigne dans l'inconscient. Pour moi, là, déjà, c'est une bonne histoire, et c'est sans doute pour ça qu'il y a des histoires qu'on continue à raconter depuis des milliers d'années, comme toutes ces mythologies, que ce soit des mythologies celtes, grecques, bibliques, même topo. Ça fait du bien. Après, il y a d'autres façons de faire du bien. Quand tu disais tout à l'heure, les mythes, les contes, les légendes, les infos à la télé, tout ça, c'est, y a beaucoup de nuances, ça marche pas pareil, c'est pas les mêmes tenants et aboutissants. T'as d'autres histoires qui font du bien dans le sens où elles nous préviennent, elles nous avertissent. Alors ça nous empêchera pas de faire des conneries, de tomber, mais quand on va se relever, on aura parfois des phrases un peu comme des proverbes qui vont nous permettre de penser notre expérience, de nous raconter ce qu'on vient de vivre. Et peut-être que là, il y a un truc, c'est qu'en fait, peut-être que toutes ces histoires, peut-être une bonne histoire, c'est une histoire qui me permet de me raconter. Parce que j'ai besoin de me faire mon récit de moi-même par rapport au chaos d'existence, de pouvoir m'organiser. Par exemple, moi, je raconte beaucoup l'Odyssée d'Ulysse. Et en fait, où il n'y a ni bien ni mal. Certes, Ulysse est le roi des malins. C'est aussi parfois le roi des crétins. Certes, il y a des moments où il est d'une noblesse, mais il y a des moments où c'est un gros barbare dégueulasse quand même. Hein. C'est quand il rentre à la maison, il va commencer par mettre à mort toutes ses esclaves de son palais. Hein. Bon, c'est un peu... Bon, tu vois, il n'y a ni bien ni mal. Par contre, il y a des choses dedans qui, moi, m'ont techniquement, pratiquement, vraiment rendu service. Alors, je parle pas du fait que dans l'Odyssée d'Ulysse, on apprend à tailler un morceau d'olivier, à faire chauffer la pointe au feu, donc des trucs très techniques si on veut avoir du bois dur comme de l'acier, pour crever l'œil d'un cyclope. Je parle juste aussi du fait de... Jamais il n'oublie d'où il vient, et jamais il n'oublie le chemin du retour. Quelles que soient les galères, tu vois, il y a cette opiniâtreté. Ben, moi, il y a des périodes de ma vie... Waouh, ben ça... C'est ça qui m'a sauvé la life, quoi. Mmh.
C'est ce que disait Emmanuel, en fait, pour le documentaire. C'est une identification. Comment on se sert de ça pour soi-même, voilà, mettre de l'ordre dans son existence. C'est une sorte de quête.
Il y a une petite phrase qui vient des Sioux, qui dit juste « Les scientifiques nous disent qu'on est constitué d'atomes, certes, mais nous, les Dakota, savons qu'on est constitué d'histoire. » Et moi, je crois que, c'est pour ça que je fais staff, que ben, si je suis constitué d'histoire... J'ai envie de faire attention aux histoires que j'ingère, aux histoires que je transmets, parce que, bah, une histoire, on peut être constitué de bonnes choses comme de poison, quoi.
Eh ben, on va parler justement des histoires qu'on ingère. Est-ce que quels imaginaires on voudrait aussi peut-être proposer, quels autres imaginaires? Mais d'abord, on écoute La Quête de Jacques Brel.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal. Pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre
l'inaccessible. Et toi,
pendant que Jacques, c'était en 68, nous racontait la quête, justement, il nous emmenait. Bah, alors là, une question de rythme. Et alors, pour incarner Jacques Brel, c'était formidable. Là, on est avec lui, on est parti dans la quête. Et pendant ce temps-là, derrière les micros, on disait, mais finalement, c'est quoi se faire du bien ? Et oui, se faire du bien, Eric, avec une histoire, ça peut vouloir dire des choses très différentes.
Ouais, voilà, c'est là que... Je parlais par exemple des mythologies qui viennent soigner dans l'inconscient et qui permettent de revenir vers l'apprentissage, vers d'ouvrir de la place dans le cerveau. Je parlais de certains contes qui nous préviennent, qui avertissent. Certains types d'histoires nous offrent de nouvelles fenêtres dans la tête. Par exemple, pour quelqu'un qui a grandi en Occident, d'entendre des contes soufis où il n'y a aucune vérité. Le monde ne se sépare pas entre vérité et mensonge. Non, il n'y a qu'une multiplicité de points de vue. Ça peut, voilà, dans ce sens-là, faire du bien. Mais en effet, il faut se méfier de ce terme. Je suis d'accord. J'aime beaucoup rappeler cette distinction entre hédonisme et épicurien. Aujourd'hui, on nous fait croire que l'épicurien, le bon vivant, le bon... Oui, mais l'épicurien, c'est le bon vivant dans le sens où l'objectif dans ma vie humaine, c'est d'en profiter, de bien vivre. Par contre, je ne suis pas complètement débile. Un plaisir de maintenant qui m'apporterait grande souffrance dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, je sais m'en passer, c'est ça être bon vivant, et une douleur actuelle, mais qui m'apporterait bonheur dans les temps qui viennent, ben, j'accepte de la traverser. Et là, je reviens à Ulysse, qui pendant 9 années va être perdu sur des mers inconnues, mais il ne lâche pas d'affaire pour pouvoir rentrer chez lui, retrouver son identité. Donc c'est vrai que se faire du bien, il faut se méfier, surtout aujourd'hui où c'est le tout de suite, maintenant, mais en fait qui ne fait pas du bien à terme, quoi.
Oui, et le divertissement, c'est-à-dire que l'espèce de voilà, maintenant ce qui compte, c'est le divertissement, quoi. C'est-à-dire de se divertir, alors qu'au contraire, je pense que j'étais, quand tu disais se raconter, c'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est-à-dire aussi trouver dans l'autre, dans les histoires racontées par l'autre, des choses qui nous renvoient et qui légitiment nos propres questionnements, nos propres angoisses parfois, enfin ce que tu disais aussi par rapport aux contes et aux mythes anciens, il y a ça aussi, c'est-à-dire légitimer aussi des peurs, légitimer, enfin voilà, je trouve que, en tout cas, se mettre en mouvement et se sentir légitime.
Je commençais à en parler avant. Là, on discute d'histoire et on a l'impression, et c'était aussi un petit peu le sens de mes questions, où j'essayais de vous faire dire quels sont les bons ingrédients d'une histoire et d'imaginaire. Parce que tu disais, avec ton proverbe Sioux, Eric, on est constitué avant tout, au-delà même des atomes, on est constitué d'histoires. Donc attention aux histoires qu'on se met en nous, j'allais dire même pas forcément entre les oreilles, c'est partout en nous, on est constitué d'histoires. Et ces imaginaires, est-ce qu'on peut... comment vous pouvez, les conteurs, les raconteurs d'histoires au sens large, justement, influencer pour avoir... des types d'histoires. Je voudrais juste... Alors, ça tombe bien. Hier, alors que j'étais alitée, complètement fébrile, je suis tombée sur un texte d'Ursula Le Guin, ou Le Guin, je ne sais pas comment on prononce, en 86, où elle souhaitait substituer ce qu'elle appelait une histoire panier à l'histoire lance. Et elle s'appuyait sur des travaux d'Elizabeth Fisher, qui était une anthropologue, dans Women's Creation, c'était en 1980. En gros, c'est au paléolithique, au néolithique, la subsistance consistait avant tout en collecte, donc cueillette, collecte de mollusques, etc. Et pourtant, alors que c'était peut-être 20%, certains partaient chasser le mammouth, mais c'est avec ces... En fait, ils revenaient de temps en temps avec de la viande, mais surtout, autour du feu, ils revenaient avec des histoires. Et cette histoire, et donc l'histoire est venue, l'histoire lance, l'histoire épée, l'histoire pointe, selon les traductions. Et elle se dit, est-ce qu'il est possible d'inventer d'autres histoires qui ne soient pas des histoires avec un héros qui symbole viriliste, le héros solitaire, a une histoire spectaculaire, mais plutôt, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer des histoires pleines de commencements sans fin, d'initiation, de pertes, avec plus de ruses que de conflits, moins de triomphes que de pièges et d'illusions? Et si vous voulez bien, je vais juste lire un petit morceau de son texte, et puis après je vous laisse la parole. Donc c'était ce texte s'appelle « La théorie de la fiction panier », c'est un texte de 7 pages, j'en lis juste un extrait. « Le roman est fondamentalement une forme d'histoire non héroïque. Bien sûr, le héros y a souvent pris le pouvoir, c'est la conséquence de son caractère impérial et de ses pulsions incontrôlables. Une tendance à tout conquérir et à tout diriger, en édictant dans le même temps des lois et des décrets sévères afin de contrôler son incontrôlable envie de tout tuer. » Le héros a donc décrété, à travers la voix de ses porte-paroles, les législateurs, premièrement, que la forme adéquate du récit est celle de la flèche ou de la lance partant d'ici et filant tout droit jusque-là et tchac, touchant son but, qui tombe raide mort. Deuxièmement, que la principale affaire du récit, y compris du roman, c'est le conflit. Et troisièmement, qu'une histoire n'est pas bonne si lui, le héros, n'en fait pas partie. Je suis en désaccord avec tout cela. J'irais même jusqu'à dire que la forme naturelle, ajustée, adéquate du roman serait plutôt celle d'un panier, d'un sac. Un livre contient des mots, les mots contiennent des choses, ils portent des sens. Un roman est un sac médecine contenant des choses prises ensemble dans une relation singulière et puissante. Voilà, Ursula Le Guin, La théorie de la fiction panier en 1986. Eric.
Ça me donne envie de rebondir avec ce que tu disais tout à l'heure sur le divertissement. Ça me touche beaucoup parce que je trouve que c'est super important et pour moi c'est complètement lié. Alors le divertissement, on a Auguste Auboy dans le théâtre de l'opprimé qui a dit ce qu'il en pensait. C'est-à-dire que des gens que tu as servi toute sa semaine, s'ils peuvent le samedi soir voir Robin des Bois avec Kevin Costner, ou à la fin les gentils sont libérés, son besoin de libération est assouvi par procuration. Il peut retourner le lundi matin, dans son asservissement. Donc, c'est pas du tout neutre. Il n'y a pas de culture apolitique, hein, ça n'existe pas, quoi. Tu vois, c'est quand on dit engagé, mais tout le monde est engagé. Après, il s'en rend compte ou pas. Ou c'est un engagement qui détonne un peu dans la masse. Donc, tout ce cinéma de divertissement, pour prendre cet exemple-là, mais pareil, des romans, pareil, des fois, plein, des contes, des conteurs, des conteuses, c'est très, très engagé. C'est, pour le dire vite, j'appelle ça la vaseline de l'oppression. Et en effet, il y a un grand bonheur que j'ai eu, c'est que depuis très longtemps, il y avait des gens qui étaient dans le combat d'idées, de ne pas laisser la place à certains types d'idées, de justement de ramener des idées avec un vrai regard sur l'histoire historique, sur la, etc. Et le bonheur de découvrir tous ces romanciers dont fait partie Ursula, qui ont décidé d'être dans le combat des imaginaires. De trouver d'autres imaginaires que ce héros, en général patriarcal, sur son cheval, avec son épée, que des symboles phalliques. Et donc on a des Heyerdahl, Damasio, toute cette bande-là, dont tout le travail est comment on va raconter des histoires, mais qui cherchent à reposer sur d'autres socles imaginaires que ce héros messianique, qui va aller ailleurs, donc des bouquins où par exemple t'as un personnage principal, mais à chaque fois qu'il commence à s'en sortir, il se vautre, il fait une connerie, enfin, t'as plein de façons de traiter, et je trouve ça super important. Entre autres, dans le monde du conte, on assiste en ce moment à beaucoup, beaucoup de grandes théories, de grands discours, et de transformation des vieux contes qui ont pourtant traversé les siècles. Et je crois que c'est parce qu'on se raconte une histoire sur des histoires. Donc de plus en plus, il y a des conteurs, des conteuses, qui au lieu qu'on ait un personnage qui monte sur un cheval, un personnage de garçon qui monte sur un cheval, une épée à la main, pendant que le personnage féminin reste auprès du feu, ce qu'ils font, c'est qu'ils inversent. Ils mettent le personnage féminin sur le cheval, une épée à la main, et garçon près du feu. Et je me dis, et on se dit avec des collègues conteuses, mais en fait, t'as rien changé là.
C'est ça.
C'est ça juste, t'as mis une fille au lieu d'un garçon, mais tu continues à encenser les mêmes symboles phalliques, et à mépriser la place de garder le feu. Et donc la même histoire avec les mêmes mots, selon comment on la porte, va devenir complètement autre aussi dans ce combat des imaginaires. C'est-à-dire que si on lâche en nous, si on arrive à se penser soi-même, et à lâcher en nous ces films de western ou de Robin des Bois qu'on nous a refilés dans la tronche quand on était gamin, si on arrive à se poser sur « mais c'est quoi qui est important dans la tribu ?» Ben c'est bien la place de garder le feu. Mmh. C'est bien ça, le socle, le centre. Et donc on pourra raconter la même histoire où le bonhomme, il va à l'aventure sur son cheval avec son épée, hein, mais il n'y a pas de supériorité d'un rôle sur l'autre. Ou à la rigueur, ben, le rôle supérieur essentiel, c'est bien garder le feu. Donc il faudrait qu'on se raconte, qu'on réfléchisse à comment on se raconte l'histoire de nos histoires.
C'est ça, c'est très très intéressant ce que tu dis, et surtout c'est pas antinomique, c'est pas l'un ou l'autre, c'est juste une reprendre sa juste place. C'est que tout, voilà, ce travail, ce qu'elle appelle finalement la collecte, enfin l'histoire panier, en fait, elle est présente.
Alors d'autant, je peux pas m'empêcher de rajouter ça, c'est que dans un conte, dans un mythe, quand je raconte, je suis tous les personnages. Et le public, quand il écoute, il est tous les personnages. Je suis le petit chaperon rouge, je suis aussi le loup. Je suis le cyclope, je suis Ulysse. Je suis tout ça à la fois. Donc ce serait dommage de transformer ces trucs, des histoires qui ont une grande richesse, et je crois que c'est vers ça que Damasio, Ayerdal, Ursula Le Guin vont. C'est retrouver cette... ce truc qui part dans tous les sens d'une grande richesse, ce serait dommage de transformer ça en espèce de tract. Ce serait aussi triste que de transformer en divertissement, en fait.
Patrice.
Alors, ce que dit Eric est très intéressant. Est-ce que c'est vrai qu'il peut exister une multitude de récits? Ça peut être des formes infinies. Et comme dit Eric, c'est vrai que, si j'ai bien compris, qu'on a l'impression de voir toujours le même récit qui est récréatif, hein, avant de retourner travailler lundi matin, comme tu disais. Par exemple, il pourrait y avoir qu'une seule histoire. Hein, on imagine un jeune paysan qui rencontre un vieux monsieur qui lui dit « Toi, tu vas quitter ta ferme, tu vas devenir chevalier, tu vas affronter le chevalier noir, sauver la princesse, attaquer la forteresse. » Il dit « Mais je peux pas. » Il dit « Monsieur, mais je vais te donner une épée magique. » Ça, on le retrouve. C'est combien d'histoires, en fait? Ce que je raconte, c'est autant la guerre des étoiles que le roi Arthur, par exemple. Ça sera toujours exactement la même histoire. Du vieux mentor qui disparaît un petit peu trop tôt. On retrouve exactement les mêmes ressorts dans Le Seigneur des Anneaux, dans tout ce qu'on veut. Ça peut être Merlin, Gandalf, Obi-Wan Kenobi. On a l'impression qu'il y a une histoire unique et qui va être récréative. Et que même quand on discute avec les gens qui ont vu un film, qui ont lu un livre, ils sont même malheureusement souvent rassurés parce que c'était comme d'habitude et que ça les a divertis. Mais en même temps, le verbe « divertir » va donner le divertissement, mais aussi la diversion.
C'est ça.
Hein, divertir, en langage militaire, c'est tromper. Vous voyez? Donc c'est en ça que je trouvais très intéressant ce que disait Eric.
Divertir, c'est sortir de.
Oui.
Sortir de soi, de sa vie. De sa vie, oui, vivre.
Oui, et les Américains appellent le cinéma l'industrie du divertissement. Alors que ça pourrait être considéré comme de la création artistique.
Emmanuel.
Est-ce les deux?
Non, mais le cinéma est entre les deux toujours, c'est toujours son problème. Enfin, le documentaire, on est un peu moins dans l'industrie, hein, mais...
sur la possibilité d'autres imaginaires. Concrètement, ce que tu disais, Eric, et ce qu'on disait avec Ursula Le Guin, cette possibilité d'imaginer d'autres types, d'autres structures narratives qui laissent plus de place, au doute, au tâtonnement, à la multiplicité, à quelque chose de pluriel, de choral. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est visible? Est-ce que vous y travaillez?
Ah bah oui, on y travaille. C'est vraiment ça. Enfin, juste là aussi, dans l'industrie, il y a de plus en plus de mythes, pour le coup, sur les arcs narratifs. Il faut construire l'histoire comme ça. Tu parlais de conflits, effectivement. Et là, nous, quand on travaille sur des films, l'enjeu, c'est encore une fois d'inventer la loi propre, la loi la plus juste par rapport au regard du cinéaste, de la cinéaste, mais aussi de la situation, de la personne, de la relation aux personnes qu'ils ont filmées. Et parfois, il y a des films qui sont juste des boucles, qui sont une suite de rencontres, par exemple en documentaire. On peut très bien construire sans qu'il y ait du tout cette question d'arc narratif qui est avec le conflit qui résout et puis après, hop, pas du tout, quoi. Ça peut être des films en boucle, même si c'est linéaire. En tout cas, c'est une suite d'histoires et ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'en termes de récit, on est en permanence en train de réinventer des formes de récit qui soient justes par rapport à l'histoire qu'on veut raconter en documentaire. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose sur cette dimension du héros et de la lance et de... très concrètement, enfin moi, encore une fois, dans le petit monde du documentaire de création, et c'est vraiment ce qu'on expérimente à longueur d'année à l'USAS. À l'USAS, il y a un master donc, de réalisation qui existe depuis 25 ans. Et ils font 3 films dans l'année. Un film collectif, 2 films individuels. Donc un film réalisé à 12, et puis après des films individuels. Et ils doivent tous les tourner dans un périmètre d'une heure autour de l'USAS. Ça fait 25 ans qu'ils ne filment que des histoires, là. Et c'est toujours la question des étudiantes et des étudiants qui arrivent, qui disent « Mais alors, c'est impossible, en fait. Enfin, si, en fait. Tu vas voir le voisin, le monsieur qui habite là. » Et là, d'un seul coup, il y a une histoire qui va s'ouvrir. Et c'est... On ne travaille que là-dessus. Et c'est vrai que moi, je viens vraiment d'un endroit du documentaire où on refuse les héros, quoi. On refuse, effectivement, mais tu parlais des true crime, mais il y a l'autre versant. Moi, je discutais encore récemment avec quelqu'un qui est intervenu dans une formation de production, qui a travaillé pour Netflix et qui est parti. Parce qu'en fait, il ne fallait que du Kylian Mbappé, il fallait que des figures héroïques d'aujourd'hui. Mais c'était ça, c'est true crime d'un côté et figures héroïques de l'autre. Alors donc, des sportifs, beaucoup de sportifs aujourd'hui. Mmh. Et donc, quand tu vas filmer le monsieur d'à côté, le paysan coupeur de feu, et qui, d'un seul coup... ce monsieur que tu croises tous les jours, et que juste de t'arrêter, de prendre le temps de discuter avec lui, et que là, un monde s'ouvre, et vraiment un monde, c'est ça l'enjeu. Et l'enjeu de la surprise dans le récit permanent, c'est-à-dire de passer notre temps en documentaire tel qu'on l'aborde nous, à surprendre le spectateur. C'est-à-dire qu'ok, tu vois, tu rentres, t'es dans une ferme, c'est un monsieur, il est éleveur et tout ça, et puis d'un seul coup de découvrir tout ce qu'il y a derrière ça, et tout ce monde dans lequel il vit, et tout ce qu'il maîtrise, et tout ce qui va te surprendre en fait. Non, mais j'y pense que là, j'étais juste avant de venir, j'étais avec un étudiant, là, ils sont en plein montage de leur deuxième film, qui a filmé un boucher, qui se met à parler de poésie, et c'est ce que j'adore, en fait. C'est-à-dire, d'un seul coup, on est dans une boucherie, c'est un boucher, il sert ses clients, et puis d'un seul coup, il y a un petit moment, et puis il commence à dire, en fait, quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à bosser chez un vendeur d'art, et j'ai découvert l'art, et j'ai découvert la poésie, et c'est magnifique. Et d'un seul coup, une histoire s'ouvre, et cet homme... on est à milieu des représentations, en tout cas, qu'on peut avoir de lui. Quoi.
Mais c'est génial, parce que ça donne de l'espoir sur les imaginaires, parce que tu as employé plusieurs termes. Si je reprends un petit peu les mots, finalement, pour faire une histoire, il faut de l'identification, de la surprise, et de la surprise, et donc pas nécessairement... un mec ou une nana qui va buter tout le monde pour triompher radicalement de quelque chose, peut-être.
Moi, je reprendrais bien ta question, parce que ta question, c'était en tant que conteur. Est-ce qu'on peut avoir une petite chance de trouver d'autres imaginaires? Ouais. Et je crois que ça, il y a des romanciers en ce moment, très nombreux, qui y répondent. Donc toute sa bande des éditions La Vote, entre autres, qui sont dans le combat des imaginaires. En tant que conteur, j'aurais juste... parce que je vous ai dit, un conteur, c'est quelqu'un qui répète des trucs qui existent déjà. Aucune originalité, j'adore ça. Est-ce qu'on ne peut pas commencer juste par aller retrouver les autres structures d'imaginaire qui sont déjà là, autour de nous, que ce soit dans le passé, que ce soit dans la géographie. Et là, ça va bousculer plein de choses. Tout à l'heure, ça parlait de Merlin. Mmh. On en avait parlé une fois ensemble déjà. Et si tu prends Merlin, t'es que les versions les plus connues aujourd'hui, fils d'un démon, tu vois, qui est entre Dieu et diable. Mais si tu vas creuser plus loin, si tu vas creuser avant, où il y avait d'autres structures d'imaginaire chez les peuples ici même, eh ben on a un autre Merlin qui porte tout un autre imaginaire où il n'y a plus du tout de bien et de mal, où il n'y a plus du tout tout ce vernis catholique. On est dans quelque chose de très très tellurique. Merlin est aussi un sale con parfois, un homme sauvage, brutal. Enfin, on est dans un autre imaginaire. Pour prendre un autre exemple, je parlais tout à l'heure des contes soufis. Enfin, brusquement, moi, ça a été énorme comme rencontre, parce que dans une culture qui sépare entre mensonge et vérité, gentil et méchant, bien et mal, on a tout un répertoire d'histoires qui sont là devant notre nez et où ça fonctionne pas du tout comme ça, où il y a que des multiplicités de points de vue. Il n'y a pas de vérité. Il y a juste, on regarde pas du même endroit. Et ça, je trouve que ça ouvre plein de trucs. C'est d'autres imaginaires. Et on les a dans notre propre culture. Après, faut les retrouver, hein. Faut les reconnaître, faut les renifler. Mais moi, je sais qu'il y a des versions de certains contes que j'ai connus au départ comme contes soufis. Il y a des histoires que racontait Jaheddin à Rumi au XIe ou XIIIe siècle, je ne sais plus les dates, qu'on retrouve dans le Philoctétos grec au IIIe siècle, mais qu'on retrouve chez Coluche et dans des BD de Villemain. Mmh. Alors, ce n'est pas traité pareil. Chez Coluche, c'est l'histoire d'un mec. Chez Villemain, c'est vite très dégueulasse. Mais derrière, en fait, c'est la même histoire où dans sa structure même de l'histoire, il se passe quelque chose dans l'imaginaire parce que tu déroules un fil. Tu décris une situation et la phrase de chute vient juste te proposer de regarder le même film, la même situation, mais depuis un autre point de vue.
Génial.
Et donc ces imaginaires-là, cette diversité, ce circulaire dont tu parlais, tout ça, on l'a aussi autour de nous. Hein. C'est-à-dire que je crois que les romanciers qui sont dans le combat des imaginaires, en fait, ils n'inventent rien. Ils piochent, ils trouvent, ils retrouvent, ils scoutent tout ça, quoi.
Mmh. Est-ce que Patrice Emmanuel voulait rebondir là-dessus sur ces imaginaires.
Moi, j'ai été intéressé quand ça évoquait le bien et le mal, ou les gentils, les méchants. C'est vrai que on a tendance à simplifier toutes ces histoires où on a le gentil, le méchant, qui n'est pas forcément le même pour tous quand on utilise ce genre de scénario pour l'adapter à la réalité, en fait.
C'est-à-dire
que on voit aujourd'hui, il y a différentes guerres, par exemple, mm-hmm. hein, pas très loin de nous, où les gentils et les méchants ne seront pas les mêmes selon les opinions. Ou même juste en France, où on a des histoires d'extrême gauche, d'extrême droite, où les gentils et les méchants ne seront pas les mêmes suivant la personne qu'on a en face de nous. Mm-hmm. Et qu'on va utiliser le récit, qu'on va utiliser justement l'imaginaire pour l'adapter à ce qu'on a en vie soi-même. Hein, comme quand la Troisième République a créé l'école publique gratuite, etc. Et que c'est le moment où on a créé le roman national, où l'histoire de France était extraordinaire. Il y avait Vercingétorix, Jeanne d'Arc, etc. Tout ça, c'était absolument sublime. Où ce qu'on peut raconter est vrai, mais c'est un choix qu'on va prendre que le merveilleux, sans parler du pire ou du moyen. Et l'élève, l'auditeur, ne va pas penser qu'on parle que du merveilleux. Il va croire que tout est merveilleux, en fait. Et puis on va avoir l'opposé après, plus tard, on va dire « Ah, l'histoire de France, elle est abominable. Regardez, les Français sont horribles. Hein, ils ont collaboré pendant la guerre, il y a eu les colonisations, etc. » Où on va avoir un reflet inverse, vous voyez, la vague qui monte et qui descend. et où chacun va utiliser justement la façon de raconter l'histoire, hein, pour se mettre du côté du bien ou du mal et décider ou imposer qui est gentil, qui est méchant.
Mais ce qu'on entendait, il me semble, c'est que justement, là, il y a des possibilités narratives qui vont au-delà du bien et du mal, non pas en allant au-delà du bien et du mal, mais en faisant coexister l'un et l'autre, l'un dans l'autre, l'un avec l'autre, et en n'excluant pas l'un ou l'autre, quoi.
Oui, ou alors tout simplement, ça n'existe pas, quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'on pense le monde. Un grec, il y a 3000 ans, à l'époque d'Homère. Alors je dis bien l'époque d'Homère, parce qu'à partir du 5e siècle avant Jésus, tout a bougé, il y a des philosophes qui sont apparus, qui ont tout de suite méprisé le mythe. C'est Platon qui disait que les mythes étaient des inventions de bonnes femmes. Exactement pareil qu'au 13e siècle, Burckhardt de Worms, un ecclésiaste allemand, parlait des fées comme étant des démons ou des inventions de bonnes femmes. Il y a des charnières qui se retrouvent entre le 5e siècle avant Jésus là-bas et le 13e siècle ici. Mais bon, dans ce que je disais tout à l'heure sur Ulysse, en fait, c'est une paire de lunettes, ce bien et le mal. Il n'avait pas cette paire de lunettes. Il n'avait pas. Ça ne se pensait pas comme ça. Et cette paire de lunettes, c'est une façon qu'on a, nous, en Occident contemporain, de regarder le monde, donc de se le raconter. Parce qu'en fait, on voit le monde tel qu'on se le raconte. C'est-à-dire que même la perception visuelle fonctionne comme ça. Enfin, je conseille à tout le monde de lire L'Art de voir de Aldous Huxley, où il était quasi aveugle, le gars. Il a trouvé un mec qui bossait sur le voir autrement que selon les principes de l'ophtalmologie. Parce que l'ophtalmologie, c'est quand même, on est parti d'un « on dirait que ça marcherait comme ça », et puis hop, un siècle de recherche là-dessus, mais bon, le « on dirait » n'a jamais été prouvé. Et lui, son principe, c'est il y a tellement d'informations visuelles autour de nous que c'est trop pour le cerveau, c'est pas gérable. Donc il y a un premier tri, ça devient des sensa. C'est encore trop. Il y a un deuxième tri, ça devient des sensations. Enfin, de tri en tri, on finit par avoir une perception visuelle. Et en fait, on voit ce qu'on nous a appris à voir. Donc ce qu'on nous a raconté. Moi, gamin, on m'a raconté la table, on m'a raconté l'arbre. Je vois la table, je vois l'arbre. On m'a pas raconté les fées et les fantômes. Si je veux être rationnel, et pas déjà religieux, déjà dans la croyance, la seule conclusion que je peux en tirer, c'est je ne vois pas des fées et des fantômes. Je peux pas dire que ça n'existe pas parce que je les vois pas, étant donné que je ne vois que ce qu'on m'a raconté. Et il y a eu des petites expériences comme ça, qu'on entre dans un village d'Afrique, en pleine brousse, il y a super super longtemps, où on passe un petit film, ça se passe dans New York, et à un moment, t'as une poule qui traverse la rue. On demande aux gens, qu'est-ce que vous avez vu? Et les gens, ils répondent, une poule. Ce truc qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils étaient capables de se raconter.
Merci. Il nous reste une minute, si vous voulez terminer.
Non, ça pourrait encore durer. Non, mais forcément, sur cette histoire de complexité, c'est tout l'enjeu, quoi. Enfin, par-delà le bien et le mal, comme tu disais. Mais je n'en dirai pas plus, si ce n'est qu'une des choses que moi j'aimais, alors que je ne le fais pas avec les étudiants, là, mais que j'ai beaucoup fait en atelier, c'était de proposer à des jeunes gens d'aller dans des lieux et de se boucher les oreilles et de commencer à regarder, et inversement ensuite, de se mettre carrément des masques sur les yeux et d'écouter, justement pour ouvrir tout ça, c'est-à-dire de sortir et de passer du temps, de mariner dans des lieux pour essayer de petit à petit de dépasser ce premier regard qui est juste celui de la reconnaissance de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on nous a appris, quoi.
On est fait effectivement d'histoire, on est fait encore le proverbe si haut d'histoire et de représentation avant même de sensation. Je pense à tout à fait autre chose, mais Sama Karaki qui a écrit l'empathie est politique, parce que l'empathie est une émotion, est en réalité une construction, une représentation du monde. Voilà. C'est pas, si vous voulez ajouter quelque chose, Patrice, il te reste 10 secondes si tu veux ajouter quelque chose.
Oui, ce qui serait intéressant, ça serait que les morts ne gouvernent plus les vivants. Que tout ce que les morts ont dit, fait, pensé, nommé, etc., nous influence tout autant que tout ce que nous, aujourd'hui, on dit, fait, pense, nomme, va influencer les futurs habitants de cette planète.
on reste là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois, donc Patrice et Patrice Ray, artiste plasticien, collecteur d'histoire du Valais qui a créé le musée des croyances populaires monastiers sur Gazeille, Éric Derien, libre conteur, conteur tout simplement, qui a créé notamment les contes éclatés à Saint-Paul-le-Jeune, et Emmanuel Roy, réalisateur de films documentaires, chef monteur et responsable de l'école documentaire de l'USAS. Tu veux dire encore un mot?
Merci Sophie.
Voilà. Ah bon. Merci à vous trois et merci Plex pour la réalisation de cette émission. Merci pour ton oreille attentive. On se retrouve bientôt pour un prochain Salon Impromptu. Ciao.
Merci à vous.